Et la question du jour qui vous était posée, eh bien, elle n'était pas très compliquée non plus, ma chère Lise, c'était que je prenne mes petits papiers. Êtes-vous choquée par la façon dont se déroulent les attentats de Bruxelles? Je vous laisse le soin de nous donner les résultats de ce mini-sondage. Pendant ce temps-là, j'essaye de joindre notre invitée, ma chère Lise.
Alors, effectivement, la majorité de nos auditeurs sont choqués. On est à 60% de oui pour 40% de non. J'aurais cru peut-être qu'on aurait pu être à encore plus que ça, très honnêtement. Mais voilà, donc une bonne majorité, 60% de oui, 40% de non en moyenne sur ce procès des attentats de Bruxelles qui se déroule avec un certain nombre d'incidents depuis le début, et on ne peut que comparer ça avec le procès des attentats de Paris, qui n'a pas été forcément extraordinaire en termes de résultats du point de vue des victimes, mais en tout cas qui s'est déroulé, on va dire, bien mieux en termes logistiques et organisationnels.
Bien, nous sommes en ligne avec notre invitée, elle est avocate des parties civiles, c'est maître Maryse Allier. Bonjour maître.
Oui, bonjour à tous vos auditeurs.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, maître. Alors, vous voyez, on a eu un résultat de sondage qui était un petit peu mitigé. On s'attendait à un raz-de-marée oui, effectivement, des choqués. Ben, voilà, beaucoup de gens ne le sont pas. Alors, justement, je voulais vous demander ce que vous inspire ce résultat un peu mitigé.
Bien, ça ne m'étonne pas tellement, à vrai dire, parce que je pense qu'au niveau des victimes, il y a également un sentiment mitigé. D'une part, bien, c'est tout à fait scandaleux de voir que ce procès n'a pas été suffisamment réfléchi et anticipé, non pas par la cour d'assises, mais par l'État belge et en particulier le ministère de la Justice. Et d'autre part, les conditions de transfert et les conditions de détention sont ce qu'elles sont et doivent être vérifiées et conformes aux droits humains.
Ben justement, maître, on a appris ce matin notamment, mais c'était déjà hier par voie de presse, que certaines des victimes ne veulent plus assister au procès pour ces raisons de dysfonctionnement. Est-ce que vous comprenez cela?
Oui, je peux le comprendre, mais je pense que ce sera clarifié parce que c'est vrai que si à chaque audience, le débat sur les conditions de transfert revient comme un leitmotiv de la part des accusés pour ne pas venir au procès, ou en tout cas certains d'entre eux, j'insiste, eh bien c'est vraiment fatigant pour les victimes. Imaginez-vous, elles doivent prendre congé, elles doivent se préparer psychologiquement pour pouvoir venir, elles arrivent et tout le débat tourne autour des accusés qui prennent tout à fait une tribune qui ne devrait pas être une tribune devant la cour d'assises, et les victimes sont dans la salle complètement désemparées et abasourdies par ce qui se passe. Donc je comprends que certaines d'entre elles n'aient plus envie de venir au procès si ça continue comme ça.
Bien sûr, bien sûr. Et justement, je voulais rebondir là-dessus parce que beaucoup de gens font l'amalgame. Ils pensent que c'est la justice qui a un dysfonctionnement, donc le tribunal, alors qu'en fait, il faut faire un distinguo entre la cour d'assises actuelle pour ce procès et les autorités judiciaires que sont le ministère de la Justice. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. La présidente de la cour d'assises mène parfaitement les débats et a déjà renvoyé les conseils des accusés vers le juge compétent pour trancher sur les questions de transfert. La cour d'assises n'a pas à trancher sur les questions de transfert. Ce qui se passe, c'est que les accusés viennent se plaindre ou sont venus se plaindre, on verra ce qu'il en est à l'avenir, de leurs conditions de transfert et en font un argument, un leitmotiv pour indiquer qu'ils ne vont pas venir ou que s'ils viennent, ne vont pas parler. Ce n'est pas généralisé. Il y a un des accusés qui a introduit une action contre l'État belge, mais qui est par exemple présent à toutes les audiences.
Bien sûr. Et j'ai envie de dire, en vous écoutant, que c'est un petit peu la carotte et le bâton. On a l'impression que c'est eux, que sont les accusés, en tout cas leurs avocats, qui font un petit peu la pluie et le beau temps dans ce procès. Alors, est-ce que c'est juste d'avoir la sensation que ce procès est un petit peu confisqué aux victimes par justement la défense et les accusés?
Oui, tout à fait. C'est la pression que ça donne. Et j'irai même plus loin parce que, en faisant cela, les accusés donnent l'image de personnes complètement autocentrées et qui ne sont pas absolument conscients des actes dont ils ont à répondre et de l'effet de leur attitude sur les victimes. Ils paraissent pour le moment complètement indifférents. Ils vont et viennent dans la salle d'audience à leur guise. Et pour les victimes, c'est très difficile à supporter. Il faut savoir que franchir les portes du justicia, si ce franchissement se fait de manière difficile pour les accusés, vous imaginez pour les victimes et la souffrance qu'elle porte comme un fardeau depuis des années.
Bien, alors j'imagine aussi qu'aux yeux du grand public, bien les avocats de la défense sont un petit peu les diables personnifiés. En même temps, il faut peut-être aussi remettre l'église au milieu du village. Ils font leur travail en définitive et en profitant, je dirais, ou d'un vide juridique ou des dysfonctionnements, ils ne font qu'appliquer, je dirais, leur travail, et leur travail est d'assurer la meilleure défense possible, quelle que soit la monstruosité de leurs clients. On est bien d'accord.
Tout à fait, tout à fait. À ce stade, de un, les accusés sont présumés innocents, et de deux, leurs avocats font leur travail. Il faut savoir que dans le cadre de l'action en référé, donc la procédure contre les conditions de transfert, qui, je le répète, n'a rien à voir avec la cour d'assises, eh bien, ils demandaient simplement que chaque fouille à nu soit justifiée par les autorités compétentes. Ils ne demandaient pas l'interdiction de ces fouilles à nu ou leur suppression. Donc, leur demande de contrôle judiciaire par rapport à ces conditions de transfert était tout à fait légitime.
Bien. Alors, on sait que les victimes aussi, on a fait une émission spéciale à l'occasion du début de ce procès, c'était le 5 décembre dernier, on sait que beaucoup de ces victimes se sentent lâchées par les autorités depuis 6 ans, depuis, je dirais, les attentats eux-mêmes. Pas de contact, le gouvernement ou les autorités n'ont pas pris de contact avec eux, n'ont pas fait de recherche spécifique pour avoir, prendre contact avec toutes les victimes. Il n'y a pas d'informations qui leur sont données, pas ou peu, je ne parle pas des avocats, bien sûr, hein, je parle des autorités, pas ou peu de développement dans les indemnisations. Où en est-on aujourd'hui?
C'est vrai que si certaines victimes ont eu la chance d'être complètement indemnisées, ce sont des initiatives qui émanent soit d'avocats, soit d'organisations comme Life for Brussels. Il y a beaucoup d'autres victimes, on le voit même en cours de procès, qui viennent à l'audience et qui cherchent des informations et qui se constituent partie civile à l'audience. Encore maintenant, donc aujourd'hui matin, il est possible que des victimes se présentent seules, complètement dépourvues d'informations. Alors le parquet a fait des tentatives pour les informer, mais au niveau de l'État belge, c'est vrai que on a certains textes européens qui demandent que les victimes d'attentats soient identifiées par l'État belge, et à ce jour, on n'a pas de liste au niveau de l'État de toutes les victimes qui ont pu être touchées par les attentats, et ça, c'est une défaillance. Mmh. Et quand on voit le parcours du combattant, quelle indemnisation? C'est vrai que cette indemnisation devrait être facilitée par l'État belge, même s'il n'est pas le premier responsable de l'indemnisation, puisque ce sont les assurances. Mmh. Eh bien, c'est un réel parcours du combattant pour les victimes.
Ben justement, je voudrais revenir à cela. Évidemment, ça n'engage que moi, mais il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. Finalement, le tribunal en référé avait enjoint les autorités à ne plus pratiquer de fouilles à nu, si j'ai bien compris. Exactement, et pas de génuflexion non plus. Et l'État, c'est-à-dire les autorités, le ministère de la Justice ou la police, tout simplement, n'obtempère pas à ce jugement. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en tant que citoyen, si demain demain on m'inflige une peine, quelle qu'elle soit, par un jugement, et que je n'obtempère pas, ben, je me retrouve derrière les barreaux ou avec une astreinte colossale. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures pour le coup?
Oui, tout à fait. Je tiens juste à rectifier. En fait, les fouilles à nu avec génuflexion ne sont pas interdites par le juge des référés. Le juge des référés a simplement rappelé la loi en disant que chaque fouille à nu devait être motivée par des critères impératifs. Donc, elles ne sont pas interdites en soi, mais elles doivent être encadrées et justifiées chaque jour pour chaque personne. Et évidemment, l'État belge, je tiens quand même à être prudente parce que nous sommes toujours dans le délai d'appel et le ministère de la Justice aurait interjeté appel parce qu'aucune requête n'a encore été déposée contre cette décision. Mais il ne reste pas moins vrai que c'est hallucinant de voir que le ministère de la Justice est condamné, qu'il prend certaines initiatives et puis tout à coup annonce qu'il va interjeter appel parce qu'il voit que dans le maillon de la chaîne de commandement, eh bien, il n'arrive pas à faire respecter une décision de justice. Et c'est vrai que le moindre justiciable qui se permettrait de s'écarter d'une décision de justice, eh bien, ça pourrait constituer une infraction grave et ce bras de fer, l'attitude du ministre est pour moi en tant qu'avocat largement incompréhensible. Mais et ce sentiment est partagé par les victimes.
Bah oui, mais en même temps, ça fait plus d'un mois que le procès a commencé. On a l'impression qu'on ne parle finalement de tout sauf des attentats. Alors, ma dernière question, elle est vaste et en même temps, je pense que c'est le reflet de ce que se demandent beaucoup de gens. Comment expliquer qu'après 6 ans de préparation et après avoir eu l'exemple du procès de Paris, puisque les accusés peu de choses près étaient les mêmes, qu'il y ait encore autant de dysfonctionnements. Est-ce que, d'après vous, nous sommes vraiment la risée du monde aujourd'hui ?
Bien, si j'en lis la presse internationale, il est vrai que c'est consternant. On parle de pantalonnade, la Belgique est complètement décrédibilisée, et c'est vrai. Je ne donne pas tort à la presse internationale. Au niveau national, bien, les victimes en pâtissent. Les accusés ne sont absolument pas préparés dans des conditions telles qu'ils viennent parler et dire leur vérité par rapport aux attentats. Et c'est très intéressant et donc très important, pas très intéressant, c'est essentiel. Mais je comprends le sentiment au niveau international. Je le disais en début d'entretien, l'anticipation et la réflexion en amont, elle devait être là. Par rapport à cela, c'est vrai qu'on est loin du compte et la Belgique est vraiment un mouton noir et c'est regrettable.
On a dit que le procès allait durer 6 à 9 mois. J'espère que les 5 à 8 mois qui restent vont un petit peu redorer le blason. Maître Maryse Allier, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite bonne chance dans ce procès en espérant que la justice fasse son travail et dans les meilleures conditions possibles et qu'on puisse avoir des débat, entre guillemets, serein. Merci infiniment et à très vite, j'espère, maître, avec de bonnes nouvelles.
Merci à vous, une bonne journée.